Qu'est-ce que la vérité ? Lorsqu'il pose cette question, Ponce Pilate n'attend évidemment aucune réponse. D'ailleurs, sa phrase clôt dans l'Évangile selon saint Jean l'interrogatoire. Qu'est-ce que la vérité ? Ponce Pilate, quand il pose la question, n'attend aucune réponse. Et il est très probable que vous qui êtes là ce soir, venu écouter une conférence qui a pour titre « Qu'est-ce que la vérité ?», vous n'attendez pas davantage de réponse. Et vous êtes à peu près convaincu déjà, si bien que votre présence est étonnante, que vous ne repartirez pas avec une bonne réponse encadrée que vous puissiez mettre de côté, qui soit transportable. Non seulement on n'attend pas de réponse, mais au fond, l'idée même qu'il y ait une réponse paraît insoutenable. Si quelqu'un pouvait prétendre apporter une réponse à cette question, il ferait à la limite objet de scandale. Et il passerait pour dogmatique, sot, et faire donc le geste insupportable d'un dangereux fanatique. Cette question, pour laquelle, au fond, nous n'attendons pas de réponse qui soit susceptible d'être encadrée à l'issue de la démonstration, est une question qui, pourtant, nous apparaît bien comme inévitable, même nécessaire. Nous sommes donc devant la situation, qui n'est pas si rare en philosophie, d'une question à la fois nécessaire et apparemment insoluble. Insoluble au sens où aucune réponse ne viendra fermer l'ouverture provoquée par la question. Il y a bien d'autres questions dont nous ne voulons surtout pas qu'il y soit répondu. Par exemple, ceux qui posent, lorsque l'on pose la question du problème du mal et que l'on dit « Pourquoi cet enfant souffre-t-il ?» Le pire, ce serait qu'il y ait une réponse. Et celui qui dit « Pourquoi cet enfant souffre-t-il ?» sait bien qu'au moment où il pose cette question, la question qu'il pose ne fera pas l'objet d'une solution en bonne et due forme. C'est, bien entendu, ce qui rend le scepticisme, plus même que le scepticisme, l'indifférence de Ponce Pilate possible. Le Christ est condamné à mort par l'alliance, pas si rare que cela, de l'indifférence et du fanatisme. L'indifférence de Ponce Pilate livre le Christ au mécanisme des fanatiques, si bien que cette situation extraordinaire où quelqu'un qui vient de dire « qu'est-ce que la vérité ?» n'en envoie pas moins quelqu'un d'autre à la mort et décide du sort d'une vie après avoir dit d'un ton qu'on imagine nonchalant « qu'est-ce que la vérité ?» Cette situation nous met donc sur la voie. Certes, la question « qu'est-ce que la vérité ?» n'attend pas de réponse sous la forme d'un énoncé, mais si elle reste sans réponse, si on ne répond pas à cette question, on sera emporté par l'alliance du fanatisme et de l'indifférence. Cette alliance du fanatisme et de l'indifférence qu'on appelle précisément l'opinion. Car l'opinion est simultanément fanatique et indifférente. L'opinion ne discute pas, l'opinion ne se discute pas. Elle a la violence des foules et elle est radicalement indifférente à la vérité, puisque en même temps qu'elle est rigide, elle est mouvante. L'opinion est simultanément rigide et mouvante. Comme d'ailleurs, elle est simultanément muette et bavarde, comme la foule. De telle sorte que cette question, il faut bien se la poser sérieusement si on ne veut pas se trouver dans la situation de Ponce Pilate, mais au fond on y est tout le temps, d'avoir à céder à l'opinion simplement parce que on n'a pas eu l'audace de poser la question et qu'on n'a pas eu la modestie d'y répondre. Il faut avoir l'audace de poser la question et il faut avoir la modestie d'y répondre, mais où est et quelle est cette réponse ? C'est ce vers quoi je vais essayer de nous conduire ce soir. Ponce Pilate est procurateur et juge. Son rôle est de décider de la vie d'un homme, et il le remet à la foule. La situation est vraiment parfaite. Il ne décide pas et laisse décider la foule. Dans l'évangile selon Matthieu, il n'y a pas seulement la foule qui décide, il y a aussi sa femme, qui a de mauvais rêves, elle dort mal, et qui fait part donc de ses mauvais rêves à Ponce Pilate, qui se trouve ainsi dissuadé de s'engager dans une situation si dangereuse. Le propos que je vais tenir comportera donc trois moments. Dans le premier moment, je tenterai de nous remettre en présence de la nécessité de vouloir la vérité, la nécessité de poser la question de la vérité et d'assumer cette question, car l'abstention est impossible ou scandaleuse. L'abstention ouvre la porte à la violence et à l'absurde. C'est ce qui se passe pour Ponce Pilate. Et donc dans ce premier temps, j'essaierai de montrer ce que suppose l'exigence de cohérence qui est sous-tendue par l'idée de vérité. Dans un deuxième temps, je montrerai que celui qui est renvoyé à cette exigence de cohérence y est renvoyé précisément parce qu'il doit décider, ce qui est le cas, ou ce qui aurait dû être le cas de Ponce Pilate. Si bien que dans ce deuxième temps, je ferai apparaître la vérité non seulement comme cohérence, mais comme certitude. La certitude par laquelle le sujet fait sienne la vérité. Car il ne suffit pas de pouvoir transcrire, rapporter un énoncé, encore faut-il pouvoir faire sienne la vérité, et c'est précisément ce qui comporte la dimension d'une décision. Si bien que dans un troisième temps, et donc si vous pouvez maintenant partir puisque je vous donne la thèse finale, si bien que dans un troisième temps, nous montrerons que la vérité n'est pas une réponse, mais ce à quoi il faut répondre. Et que la vérité est ce à quoi il faut répondre, non pas parce qu'elle se donne comme interrogation, mais parce qu'elle se donne comme évidence. Donc premièrement, la vérité comme cohérence, deuxièmement, la vérité comme certitude, troisièmement, la vérité comme évidence. Et la vérité comme évidence, nous sommes de lui répondre. Pourquoi vouloir la vérité ? Il est clair que, comme je l'ai fait apparaître en introduction, l'enjeu de la vérité, c'est le refus de la violence. La violence qui prend bien des formes, c'est toujours la conduite qui consiste à traiter autrui comme un objet disponible, manipulable, à faire primer les exigences d'une réussite par rapport à celle d'une vérité. C'est en particulier, c'est une banalité que de le dire, ce que souligne Socrate dans ses dialogues avec les sophistes. Dans les dialogues avec les sophistes, Socrate souligne que les sophistes sont des techniciens de la parole, qu'être un technicien de la parole conduit à mettre entre parenthèses la question de la vérité, comme le professeur qui dit, ben voilà, il y a une technique de dissertation, ce que vous dites n'a pas d'importance, n'est-ce pas ? Ce qui compte, c'est l'application de la technique. Et donc, il est sophiste. Et cette technique donc, suscite l'indifférence à la vérité et donc rend possible l'usage de la parole par les violents. Et Socrate et Platon font bien apparaître que les sophistes sont au service des violents. La vérité est exigée pour dépasser la situation de la violence parce qu'elle elle fait naître en nous l'exigence de la non-contradiction. C'est assez étrange que, d'une part, qu'on se contredise avec l'autre nous interroge. Comment se fait-il que nous ne soyons pas d'accord ? Alors, soit je résous le désaccord par une forme ou une autre de violence, soit j'essaye effectivement d'aller jusqu'au bout de la situation provoquée par ce désaccord, ne me contentant pas de constater qu'après tout on n'est pas d'accord et que chacun pense ce qu'il veut. Mais même, c'est encore plus étrange que nous soyons préoccupés de ne pas nous contredire. Comment se fait-il que quelqu'un se trouve surpris quand on lui dit qu'il se contredit ? Il se trouve penaud et comprenne cela comme l'exigence de résoudre cette contradiction. Il importe de ne pas se contredire. Vous voyez, pense Pilate, je ne vois en cet homme aucun motif de contradiction. Par conséquent, je commence par lui faire donner le fouet. On pourrait lui dire, Ponce Pilate, il importe de ne pas se contredire. Mais ce n'est pas du tout la question de Ponce Pilate de ne pas se contredire. Et donc, livrant le Christ à la foule, il ne voit aucune difficulté à ce qu'il y ait de la contradiction entre ses actes et ses paroles, et même à ce qu'il y ait de la contradiction entre une parole et une autre. On peut donc dire que l'exigence de vérité, c'est ce qui peut donner sa pleine signification à la parole, en tant qu'elle est adressée à l'autre et en tant que le sujet est voué à s'y reconnaître, à s'y exprimer. Et donc on peut dire que la recherche de la vérité est caractérisée par le refus de l'absurde. Il n'y a pas de philosophie de l'absurde. Il y a des philosophes absurdes. Malgré eux, mais il n'y a pas de philosophie de l'absurde, ou alors il faudrait que ce soit une philosophie qui s'autorise à se contredire. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans les dialogues socratiques, lorsque Socrate discute avec ce jeune ambitieux qu'est Calliclès, qui n'est pas un sophiste, mais qui utilise justement le verbe des sophistes. Calliclès, avec morgue, avec hauteur, dit « Ben oui, je me contredis, et alors ?» On se croirait dans une scène de ménage. « Ben oui, je me contredis, et alors ?» Mais s'autoriser à se contredire, c'est évincer d'emblée l'autre. Et donc, la recherche de la vérité se confond avec la recherche du discours pleinement cohérent, ce que l'on appelle la raison, le discours pleinement cohérent. Avec, d'ailleurs, la conviction qui fonde la philosophie, que la cohérence du discours renvoie, ouvre à la cohérence même de l'être. L'identité du discours avec lui-même renvoie à l'identité de l'être avec lui-même. Les premières paroles de la philosophie, c'est celle de Parménide. L'être est, le non-être n'est pas. Tout autre chemin est exclu, est une voie basse et indigne. Et si Parménide fonde la philosophie en disant « l'être est, le non-être n'est pas », ce qui semble un peu succinct, je le reconnais, c'est parce que dans cette affirmation, il met en évidence que l'identité du discours avec lui-même est la seule possibilité d'exprimer l'identité de l'être. Cette raison, cette exigence du discours totalement rationnel, le fait apparaître le sujet qui va tenir ce discours. Car le sujet qui va tenir ce discours totalement rationnel, ou le sujet qui va essayer de tenir ce discours totalement rationnel, qui va essayer de ne pas se contredire, qui va essayer de résoudre la contradiction des opinions autant qu'il le peut, eh bien ce sujet, il va vite se trouver seul. Il va très très vite se trouver seul. Et donc celui qui fait le modeste effort de tenir le discours totalement cohérent doit affronter d'emblée une situation de solitude radicale, car les mots de la tribu, les mots de la collectivité, les mots de la cité, eux, se préoccupent de la puissance, mais non pas de la non-contradiction, non pas de la vérité. Donc celui qui va introduire dans un groupe donné, quel qu'il soit, une famille, une école, une église, une ville, un pays, la question du discours pleinement cohérent, il va simultanément apparaître comme celui qui formule l'exigence la plus objective et comme le sujet le plus solitaire. Il n'y a que l'individu qui puisse poser la question de l'universel. C'est contre-intuitif, mais c'est l'a priori fondamental de la philosophie. Seul un individu qui a l'audace de s'exempter de la tribu peut poser la question de ce qui est universel, c'est-à-dire de ce qui va se reconnaître dans la pleine cohérence du discours. Ce discours totalement cohérent, il va donc falloir qu'il soit tenu par un sujet qui va assumer sa pleine singularité, sa totale solitude. On peut encore ici regarder Socrate, qui est effectivement l'individu par excellence qui va faire voler en éclats les assurances de la cité et qui, avec obstination, continuera d'interroger ses concitoyens pour faire advenir chez eux l'exigence du discours pleinement cohérent. Oui, mais au moment même où le sujet apparaît dans cette exigence du discours pleinement cohérent, il disparaît. Il disparaît parce que le discours pleinement cohérent exige qu'il ne dise pas « je ». Et c'est précisément le plus haut effort du sujet que d'arriver à ne pas dire « je ». C'est là que le sujet est dans sa pleine liberté, dans sa pleine subjectivité, au moment où il rentre, s'effaçant pour ainsi dire, dans la pleine cohérence du discours. Vous le savez d'ailleurs. Vous le savez très bien parce que quand vous perdez pied dans une discussion, vous dites « c'est du moins ce que je pense ». Bravo. Et au moment où vous feignez de vous engager, vous prenez la tangente. Car « c'est du moins ce que je pense », c'est une manière de feindre de s'engager et de prendre la tangente. Et de devenir indiscutable. Donc il n'y a pas de contradiction entre l'exigence du discours pleinement rationnel et son investissement par le sujet qui, dans le même temps, va s'y abolir. L'universel ne se manifeste que dans le lieu de l'individu, son exigence ne peut être manifestée que par l'être le plus singulier, mais qui aussitôt disparaît dans le discours qu'il tient, dans la mesure où ce discours est un discours absolument cohérent. Je vous renvoie, il y a quelques étudiants ici, il faut absolument qu'ils aillent lire le dernier paragraphe de la préface de la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Dans le dernier paragraphe de la préface de la phénoménologie, Hegel exprime très bien ce mouvement dans lequel il dit « bon ben maintenant il faut que je s'en aille ». Et le bouquin commence. C'est la fin de la préface. Maintenant, il est temps que je s'en aille. Il faut dire qu'on ne l'avait pas trop entendu avant. Et donc, il laisse place au discours qui va s'auto-développer par sa pleine cohérence, sa pleine objectivité. Cette assomption, non pas ce retrait, mais cette assomption du sujet dans le discours pleinement cohérent, correspond à la constitution de l'objectivité. Ne peut être objectif que celui qui précisément a l'audace de s'ébrouer de ses propres opinions, de ses propres préjugés, de rompre toute solidarité potentielle ou réelle avec la collectivité à laquelle il appartient. Et on peut voir que toute l'histoire de la science, comme lieu éminent du discours pleinement cohérent, du discours totalement cohérent, peut être reconnu ici par l'effort sublime de quelques héros de l'esprit qui ont manifesté dans la pleine lumière la vérité de l'objet, ont mis en œuvre ce qu'on appelle l'objectivité, mais que cette mise en œuvre de l'objectivité est précisément due à l'effort de quelques sujets assez singuliers, assez héroïques. C'est pas vous, c'est pas moi. Enfin, en tout cas, c'est pas moi qui en aurais été capable. Peut-être vous. Mais il faut aussi, il faut pas s'imaginer que l'objectivité est quelque chose qui est donné à tous. Non, non, non. C'est pas parce que vous dites que la Terre tourne que vous êtes objectif. Hein. Vous en savez rien du tout. Vous répétez une opinion. Vous n'avez même pas vérifié. D'ailleurs, vous seriez incapable de la vérifier, enfin, sauf peut-être quelques-uns. Un propos commun n'est pas pour autant un propos véridique, même si l'énoncé est exact. Ah, là, ça devient plus embêtant. Ça nous met sur une autre piste. Il ne suffit pas que l'énoncé soit exact. Il ne suffit pas que le discours soit non contradictoire. Car l'énoncé exact, à la rigueur, comme nous qui répétons que la Terre tourne, peut être répété et peut devenir tout autant une opinion. Et ouvrir tout autant la porte à la violence. Qu'est-ce qui apparaît ? Et c'est ce qui me conduit au deuxième temps de mon petit exposé. Ce qui apparaît, c'est que la tâche de la vérité ne se confond pas seulement avec le discours pleinement cohérent et avec l'objectivité. Encore faut-il que le sujet qui, d'ailleurs, est à l'origine de cette objectivité, s'y implique. En effet, le discours pleinement cohérent, au fond, il nous donne le possible. Le non contradictoire, c'est le possible. Si bien d'ailleurs que la science, comme modèle du discours non contradictoire, nous donne ce qui est possible, non pas ce qui est réel. Et ce qui, d'ailleurs, nous permet de penser que la science nous donne ce qui est possible, c'est qu'elle est précisément indéfiniment révisable. Et donc, à chaque moment, je suis conduit, enfin, l'humanité est conduite, à réviser, corriger des affirmations qui, toutes non contradictoires qu'elles aient pu être et toutes véraces qu'elles aient pu être, sont corriger, car le discours non contradictoire ne nous donne que le possible. C'est la force du sceptique. Le véritable sceptique, Hume, ne dit pas que nous sommes incapables de vérité. Il dit « le discours pleinement cohérent ne donne que le possible ». Ça veut dire « le contraire est toujours possible ». Vous savez ce que dit Hume, le contraire d'un fait contingent est toujours possible. Le fameux exemple, c'est le soleil, il n'est pas assuré que le soleil se lève demain. Il n'est pas assuré que la boule de billard ne revienne pas en arrière. Et donc, ce que met en évidence le sceptique, c'est que la décision quant à la vérité, c'est la tricherie que met le sujet sur un plateau. C'est qu'un sujet fait pencher un peu plus le plateau qu'il ne convient, il fait un pas de plus que ce qu'il peut savoir. Pourquoi fait-il ce pas de plus ? Ben parce que je ne peux pas tout le temps, comme dit Hume, me demander si je passerai par la porte ou par la fenêtre. et que donc c'est ce qui va me conduire à faire ce pas de plus par rapport à des discours qui ne me donnent jamais que le possible, c'est le malaise dans lequel je serais si vraiment j'étais en face du caractère indécidable des propositions possibles. Le nésiness, le malaise. Et il faut que je rompe ce malaise. Alors pour rompre ce malaise, je fais un pas de plus et je dis le soleil se lèvera demain, ou je dis la boule de billard va aller dans ce sens. Mais ce pas de plus, je ne le fais précisément que par une espèce de tricherie qui est bien nécessaire à l'existence pour ne pas rester tout le temps dans l'oscillation. Voilà pourquoi Hegel dit bien que le sceptique ne doute pas. Le sceptique, il est indifférent, mais il ne doute pas. Car celui qui doute, pour lui, la contradiction est cruciale. Celui qui doute, pour lui, la contradiction est grave. Ça l'embête. Il va chercher à trouver une solution à cette contradiction. Et donc, bien de nos contemporains affichent leurs doutes, alors qu'au bout du compte, ils sont simplement indifférents. Et moi, je doute, moi, je suis en recherche. Mais en fait, ils s'en tamponnent le coquillard. Car celui qui doute est précisément devant l'oscillation des balances et ceci le met devant une situation cruciale. Je lis Hegel dans les leçons sur l'histoire de la philosophie, tome 4. Le scepticisme n'est pas un doute. Le doute est précisément le contraire du repos qui est le résultat du scepticisme. Doute vient de deux. Zweifeln et dubitare, c'est la même racine, c'est deux. Doute vient de deux. Il consiste à être ballotté entre deux ou plusieurs termes. Le scepticisme, au contraire, est indifférent envers l'un et l'autre. C'est là le point où se tient l'ataraxie du scepticisme. Le scepticisme est certain dans la non-vérité. Il n'a pas l'intention de parvenir à la vérité. Il ne laisse pas indécis, bien au contraire, il n'est que décision. Voilà qui est profondément dit. Le sceptique ne reste pas indécis, il n'est que décision. Et décision d'écarter d'un revers de main l'alternative devant laquelle on resterait en proie à un certain malaise, une aisinesse. Il n'est que décision pure, il est parfaitement achevé. Mais ce qui est décidé là n'est pas pour lui une vérité, mais la certitude de soi-même. C'est le repos, la fermeté de l'esprit en lui-même, aucun habit de deuil, termine Hegel. Ce qui est la grandeur du scepticisme. Les sagesses sont caractérisées par l'ascèse, une privation libératrice. Le sceptique fait l'ascèse du désir de vérité. On peut faire l'ascèse du désir de pâtisserie ou l'ascèse du désir de plaisir sexuel. Faire l'ascèse du désir de vérité, difficile. Mais c'est ce qui permet au sceptique d'être dans une certaine paix, qu'il puisse donc dans la pure décision qui est celle de la certitude de soi-même. Qu'apprend-on alors ? Eh bien, on apprend que, au fond, ce qui est en jeu dans la question de la vérité n'est pas de l'ordre du savoir. Le savoir nous livre des résultats suffisamment vérifiés. Fumer tue. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur les paquets de cigarettes ? Fumer tue. Il y en a un certain nombre qui ne doivent pas savoir lire. Ou il y en a un certain nombre qui doivent se dire « c'est bien possible ». Et au fond, bien que l'énoncé soit, on pourra reconnaître cet énoncé comme valide, fumez-tu, c'est très très valide, c'est très probable, c'est vraiment un énoncé qui est confirmé par un certain nombre d'expériences que chacun d'entre nous peut aller chercher. Et donc c'est le savoir est complètement inutile sans l'acte par lequel le sujet le fait sien. Et ça, le sceptique le montre très bien. Sauf qu'il laisse en quelque sorte à nu la décision. Il montre, ce que le sceptique montre avec force, c'est qu'au fond, dans tout cela, il n'y a que l'acte de foi. La nécessité où nous sommes de croire nous empêche de croire la nécessité. Tout Hume est là-dedans. Et donc je ne peux pas croire à la nécessité puisque les jugements les plus cohérents que je pourrais avoir sont bien possibles. Fumez-tu ? Bon, bien possible. L'acte de foi ne résulte pas de notre ignorance. Fumez-tu, on n'ignore pas. L'acte de foi résulte de la nécessité de passer du possible au réel. Ce passage donc ne s'accomplit que dans une décision, ce que met bien en évidence le sceptique. Et c'est ce que font, au fond, met bien en évidence la question de Ponce Pilate. Qu'est-ce que la vérité ? Si bien que la question du discours pleinement cohérent, l'exigence du discours pleinement cohérent, nous renvoie donc à la question de la certitude. Certitude dont la philosophie nous donne le modèle, pas seulement le modèle, nous donne l'acte, je ne sais pas comment le dire, la lumière dans le cogito de Descartes. D'ailleurs, si Descartes entreprend des recherches de type métaphysique sur la seule, une certitude sur laquelle on puisse se fonder, c'est que pour lui, la science, c'est le domaine de l'incertain. Vous savez que le seul portrait authentique, authentifié de Descartes est un portrait dans lequel il pose avec une tablette sur laquelle il est écrit « Mundus est fabula », le monde est une fable. Et on comprend pourquoi on peut attribuer à Descartes cette conviction que le monde est une fable si effectivement le discours pleinement cohérent qui est celui de la science ne nous donne que des constructions possibles. Et donc le monde de la science est en manque de fondement. Il nous donne des constructions possibles. Il faudrait, et c'est ce que Descartes, pour le coup, a vécu avec intensité, avec angoisse même, je pense, il faut pouvoir arrimer à une certitude des connaissances qui, sinon, ne resteront que des constructions provisoires. Donc le scepticisme révèle que la vérité n'est pas contenue dans un savoir, mais dans la conscience de soi qui fait l'expérience de cette vérité. La vérité n'est pas contenue dans un savoir, mais dans la conscience de soi qui fait l'expérience de sa vérité, de cette vérité. Et c'est précisément donc ce que manifeste le cogito. Deuxième moment, donc celui de la certitude dans laquelle va apparaître l'acte propre du sujet, qui est de faire passer précisément par la décision du savoir à l'acte, du possible au réel. En effet, je l'ai dit, le seul passage du possible à l'effectif, c'est le sujet lui-même. Ou je fume ou je ne fume pas. Fumez-tu ? Bien possible. Mais le seul passage à l'effectif, c'est le sujet lui-même. Et si bien qu'on peut comprendre par là que la vérité ne soit pas dans une phrase, que la vérité ne soit pas dans un résultat, ne soit pas dans un énoncé que l'on puisse véhiculer. Car comprendre que le sujet est le seul point de passage du possible au réel, c'est comprendre que le rapport à la vérité ne se délègue pas. Le rapport à la vérité ne se délègue pas. Je ne peux pas dire « Descartes a pensé, donc je suis. » Beaucoup de professeurs de philosophie en sont convaincus qu'ils existent parce que Descartes a pensé. Mais il faudrait arriver à les détromper. Et donc, je ne peux pas dire Descartes a pensé, donc je suis. Je ne peux pas dire, imaginez toutes les formules possibles et imaginables. Je ne peux que dire je pense, je suis. Je, c'est pas Descartes. Et celui qui lit le cogito en pensant Descartes a pensé, donc Descartes existe, et il n'a rien compris du tout. La seule chose que je puisse dire, c'est je pense, je suis. Le rapport à la vérité ne se délègue pas. Je ne peux pas dire non plus, si vous voulez savoir ce que je pense, demandez-le au pape. Le rapport à la vérité ne se délègue pas. Si bien que la vérité n'est pas dans le savoir, mais dans l'acte d'appropriation de ce savoir. Par exemple, celui qui dit la vérité sous les coups de fouet. Imaginons que sous les coups de fouet, quelqu'un dise « Oui, oui, fumez-tu, fumez-tu ». S'il le dit sous la contrainte, il ne dit pas la vérité. Si quelqu'un dit que Dieu existe sous la contrainte, il ne dit pas la vérité. Même s'il dit, effectivement, un énoncé vrai. Mais celui qui dit un énoncé vrai parce qu'il se trompe, par exemple, alors lui, bon, on ne parlera pas de son cas, mais celui qui dit un énoncé vrai parce qu'il triche, parce qu'il a regardé par-dessus l'épaule du voisin, il ne dit pas la vérité. Pourtant, il rapporte un énoncé vrai. Il est donc clair que la vérité n'est pas dans l'énoncé d'un savoir. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que vous avez beau dire que la Terre tourne, vous n'êtes pas plus savant pour ça. D'ailleurs, vous diriez avec la même exactitude qu'elle ne tourne pas, qu'elle est plate, qu'elle est carrée, etc. Et évidemment, c'est ici que nous rencontrons Kierkegaard, c'est-à-dire l'affirmation si souvent mal comprise selon laquelle la vérité est subjectivité. Que dit Kierkegaard quand il dit « la vérité est subjectivité » ? Il dit que ce qui importe dans la vérité, c'est le comment plus que le quoi. Ce qui importe, ce n'est pas le résultat que je vais pouvoir communiquer, même si je ne l'ai pas compris, mais c'est le comment j'y suis parvenu. Et comment ce résultat, je peux en vérité le faire mien. Et si bien que on revient à la première situation que j'avais évoquée, l'universel, c'est ce qui passe par moi. L'universel ne peut pas être l'universel moins moi. Il ne peut être l'universel que pour autant qu'il passe par moi. Et c'est en ce sens donc que la vérité est subjectivité, c'est-à-dire que l'être de la vérité est dans son redoublement en toi, en moi, dans son redoublement dans le sujet. On peut ouvrir une page de Kierkegaard pour le plaisir. Bien sûr, dans le post-scriptum au miette philosophique, dans lequel on peut lire ces lignes facétieuses, il appartient à l'esprit de s'informer de deux questions. Ce que l'on dit, est-il possible ? Deuxième question, puis-je le faire ? Mais on témoigne d'ineptie en posant ces deux autres questions. Est-ce réel ? Et deuxièmement, mon voisin Christofferson l'a-t-il fait ? Et donc, tout ce que le savoir peut atteindre, c'est le possible. Donc je peux me poser la question, est-ce possible ? Et puis je peux me poser la question, puis-je le faire ? Mais je ne peux pas me poser la question donc, de savoir si c'est réel, car entre le jugement non contradictoire et la réalité, il y aura toujours un espace infini. Et je peux encore moins me demander avec sagacité si Descartes a pensé ou si mon voisin Christofferson l'a fait. Ou encore, de toute façon c'est un régal, une fois qu'on a commencé à lire Kierkegaard, on ne peut plus s'arrêter. Tout savoir sur la réalité est possibilité. La seule réalité dont un existant a plus qu'un savoir, c'est sa propre réalité, le fait pour lui d'exister. Et cette réalité est son intérêt absolu. Mon seul intérêt, c'est d'exister. L'abstraction exige de lui qu'il devienne désintéressé pour savoir quelque chose. C'est ce que nous avons vu au début. L'éthique exige de lui qu'il trouve son intérêt infini à exister. Car, évidemment, du point de vue éthique, ce qui importe, ce n'est pas de savoir si c'est possible, mais si c'est réel, et ça ne peut devenir réel que par moi. Ainsi, l'essence de la vérité réside dans la liberté. Et dire que l'essence de la vérité réside dans la liberté, c'est donc ce que signifie Heidegger dans sa célèbre conférence sur l'essence de la vérité. Dire que l'essence de la vérité réside dans la liberté, ça ne veut pas dire qu'on choisit la vérité arbitrairement. On ne choisit pas arbitrairement de penser si fumais-tu ou fumais-tu pas. Dire que la vérité est subjective, c'est pas, ça ne veut pas dire que chacun a son petit point de vue subjectif sur la question. Mais ça veut dire que ça ne peut véritablement devenir vrai que dans la mesure où ça devient vrai en moi. Et donc si je vous convainc la clope à la main que fumais-tu, ça ne marche pas. Vous direz, c'est bien possible. D'ailleurs, même si vous me voyez m'abstenir de fumer, vous direz, c'est toujours bien possible, car il y en a un seul qui pourra attester la véracité de cet énoncé, c'est toi, c'est moi. Je ne peux pas dire Robert s'est arrêté de fumer. Je ne peux pas dire Alphonse est mort d'un cancer du poumon. Il y en a un seul par qui la décision passe, c'est toi, c'est moi. C'est ce qui signifie la vérité et subjectivité, et c'est ce que signifie donc que l'essence de la vérité réside dans la liberté, non pas l'arbitraire du choix qui m'autoriserait à choisir une affirmation parmi d'autres, mais la vérité ne se donne qu'à proportion où je suis libre, c'est-à-dire qu'à proportion où je suis disponible à cette vérité, qu'à proportion où je suis exempt de tout souci. C'est d'ailleurs ce que réalise le doute cartésien. Abducere mentem a sensibus, arracher l'esprit au sens. Arracher l'esprit au sens, arracher l'esprit aux soucis, aux préoccupations, se retirer pour précisément être pleinement disponible et être capable donc de ce noyau de certitude qui seul est la véritable expérience de la liberté. La liberté, en effet, n'est réelle que dans l'adhésion au vrai. Si fumais-tu et que je fume, c'est que je ne suis pas libre. Je ne sais pas lire, j'ai eu une mauvaise influence, j'ai été intoxiqué par mes parents, que sais-je? Si je sais que fumais-tu et que je fume, c'est que je ne suis pas libre. Et donc, il n'y a de liberté que dans l'adhésion au vrai, et la certitude ne s'impose à celui qui sait l'accueillir. Ainsi, la certitude, loin de supprimer la liberté, semble au contraire la présupposer. Au fond, on peut dire que la vérité, c'est l'acte propre du sujet, parce que toute certitude est une conquête sur nos rêveries. Toute attention est une conquête sur nos rêveries. Arrache-toi à tes rêveries. Arrache-toi à tes distractions. Tout ce qui te distrait et qui, finalement, ouvre la porte à tous les prétextes possibles. C'est d'ailleurs pourquoi on peut dire donc que la vérité nous rend libres, certes, mais surtout la vérité ne se donne qu'à celui qui est libre, c'est-à-dire qui est émancipé de toute distraction, de toute rêverie, de tout mensonge, de tout prétexte, etc. Et cette compréhension de l'engagement du sujet dans la vérité, dans l'expérience de la vérité, et non plus dans son énoncé, dans son énonciation, hein, comme certitude, l'expérience de la vérité comme certitude. Cette implication du sujet donc dans l'expérience de la vérité nous permet aussi de comprendre qu'il est impossible de connaître la vérité sans l'aimer. C'est assez curieux, car connaître la vérité sans l'aimer, c'est l'enfer. Qu'est-ce que l'enfer? Je peux vous le dire, j'en reviens. Et donc l'enfer, c'est le moment où la vérité, au lieu de nous sauver, nous condamne. Fumais-tu? quand la vérité est connue trop tard, elle est infernale. La vérité qui, au lieu de me sauver, me condamne, me juge, au lieu de pouvoir être assumée par ma liberté, lorsque la vérité, au fond, se tourne en accusation lorsqu'elle est connue trop tard. Je tiens que, enfin, je vous raconterai ça quand j'en saurai plus, mais vous savez, Dante dit qu'à l'entrée de l'enfer, il y a marqué ici abandonne tout espoir. Moi, je pense que, mais je vérifierai que à l'entrée de l'enfer, il y a marqué trop tard. Et c'est-à-dire que la vérité est connue sans qu'elle puisse être épousée par la liberté, aimée par la liberté. Alors, c'est au terme donc de ce deuxième moment, nous comprenons que la vérité, c'est moi, que la vérité, c'est toi qui l'as dit. Telle est d'ailleurs la réponse du Christ à Ponce Pilate. C'est toi qui le dis. Le Christ n'a pas, qui est muet dans les autres évangiles, donc dans Saint Jean, le Christ répond à Ponce Pilate. Chez les autres évangélistes, le Christ ne répond pas, il est muet. Alors Ponce Pilate dit, enfin, tu sais bien que je peux te condamner, tu pourrais quand même dire quelque chose. Mais les réponses du Christ à Ponce Pilate sont, c'est toi qui le dis. Es-tu le roi des Juifs, c'est toi qui le dis, etc. Et ce qui est une manière, me semble-t-il, donc de manifester que Ponce Pilate devrait porter la responsabilité de ce qu'il dit, mais Ponce Pilate n'est pas libre. Ponce Pilate a peur de César, a peur du peuple, a peur de sa femme, a peur des Juifs, et donc il n'est pas libre, et c'est pourquoi il n'est pas en mesure, pas plus que, enfin, comme souvent c'est notre cas, d'assumer la vérité, il n'est pas en mesure de la faire sienne. Je disais, en conclusion de ce deuxième temps, donc on ne peut pas connaître la vérité sans l'aimer, parce que donc elle est le moment de joie. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit bien chez Descartes. À la fin de la troisième méditation, la joie de Descartes, c'est bouleversant. Et cette joie qui accompagne justement le rejet des fers, le rejet des aliénations, le rejet des pesanteurs, pour un esprit qui est capable d'aimer cette vérité. Mais alors, ça permet de comprendre, et ça sera mon troisième temps, que cette certitude, qui est donc l'appropriation par le sujet du possible, la certitude, c'est le sujet qui s'approprie le possible, et qui, donc, par une décision, comme le montrent bien les sceptiques, mais une décision qui, justement, est, à différence de celle des sceptiques, remplie, investie par l'attention et l'amour de la vérité. Et si nous comprenons cet amour de la vérité, cela veut dire que, plus loin encore que la certitude, il faut comprendre que la vérité est évidence et qu'elle se donne précisément à l'esprit disponible, à l'esprit attentif, à celui qui serait ou celui qui est suffisamment purifié de toute distraction et de toute rêverie pour être exposé à l'évidence. Saint Augustin, vous le savez peut-être, dans les Confessions, distingue deux formes de vérité. La vérité éclairante et la vérité éclairée. La vérité éclairée, c'est celle qui définit des objets, examine des objets. La vérité éclairante, c'est celle qui n'illumine pas des objets, mais moi. C'est un peu comme une lampe de poche, en quelque sorte. Si j'utilise une lampe de poche pour éclairer des objets, je suis invisible derrière cette lampe. Ce qui est un certain modèle de l'objectivité. Le sujet disparaît quand il éclaire l'objet. Mais en revanche, si je suis éclairé par une lampe de poche, je ne verrai plus rien, en quelque sorte, de celui qui m'éclaire et peut-être même de ce qui m'éclaire, mais je suis exposé moi-même en pleine lumière. Lisons Saint Augustin. dans les Confessions, au livre 10. Vous savez, dans les Confessions, Saint-Augustin, en s'adressant à Dieu, reparcourt sa vie. Et dans les Confessions, livre 10, chapitre 23, il dit « J'ai connu bien des gens qui voulaient tromper, mais être trompé, personne, pas sûr. » Mais par bonheur pour lui, Saint-Augustin ignorait la psychanalyse. « Où donc ont-ils pris connaissance de cette vie heureuse, sinon là même où ils ont pris connaissance de la vérité ? Car ils aiment aussi la vérité elle-même, puisqu'ils ne veulent pas être trompés. Et lorsqu'ils aiment la vie heureuse, qui n'est pas autre chose que la joie de la vérité, tiens, ils aiment aussi la vérité. Et ils ne l'aimeraient pas, s'ils n'avaient d'elle quelque notion. Pourquoi donc ne se réjouissent-ils pas en elle ? Pourquoi alors ne sont-ils pas heureux ? Ils aiment la vérité quand elle brille, ils la haïssent quand elle accuse. Amanteam lucentem, oderunt eam redarguentem. Ce n'est pas par cuistrerie que je lis le latin, c'est parce que Saint-Augustin, c'est vraiment très beau. Et si vous lisez un tout petit peu de latin, lisez-le en latin, parce que ce n'est pas trop difficile, c'est vraiment très beau. Ils aiment la vérité quand elle brille, ils la haïssent quand elle accuse. Mais ne voulons pas être trompés, et voulant tromper, ils l'aiment quand elle se signale, elle, et la haïssent quand elle les signale, eux. Voici comment elle les rétribuera. Ils ne veulent pas qu'elle les dévoile, elle les dévoilera, sans qu'ils le veuillent, et elle-même pour eux restera voilée. Oui, voilà l'esprit humain, oui, le voilà, aveugle et sans vigueur, honteux et sans honneur, qui veut rester caché, mais ne veut pas que rien lui reste caché. La vérité éclairante, la vérité éclairée. Rémi Brague, dans Modérément moderne, reprend cette distinction et il distingue, c'est assez suggestif, dit au fond, la vérité éclairée, c'est celle qui est de l'ordre du savoir, la vérité éclairante, c'est celle qui est de l'ordre de la culture, et par laquelle, justement, le sujet est renvoyé à la vérité. Ainsi, la vérité n'est pas quelque chose que l'on possède, mais dans quoi on est, comme le Christ le dit d'ailleurs à Pilate, ceux qui sont de la vérité. Le Christ ne le dit pas, c'est une formule assez étrange, il ne dit pas ceux qui connaissent la vérité, ceux qui ont la vérité, il dit ceux qui sont de la vérité. C'est-à-dire ceux qui sont sous la lumière de la vérité. Et telle est l'expérience de l'évidence, qui ne fait qu'un avec l'expérience du mystère. Jusqu'à présent, nous avons compris, dans la première partie, la vérité comme la correspondance du discours cohérent avec l'objet. Avec l'être. Dans la deuxième partie, nous avons compris la vérité comme l'unification du sujet, l'identité, pour ainsi dire, du sujet et de son discours. Première partie, identité du sujet et de l'être. Deuxième partie, identité du sujet et de son discours. Mais au fond, dans l'expérience de l'évidence, la vérité, c'est bien davantage l'identité de l'être et de sa manifestation. Et dans l'identité de l'être et de sa manifestation, nous faisons simultanément l'expérience du mystère et l'expérience de l'évidence. C'est pourquoi la vérité a quelque chose à voir avec la beauté. Parce que cette identité de l'être et de sa manifestation, c'est précisément l'expérience de la beauté. Et cette expérience de la beauté, elle ne se livre que dans la mesure où précisément je me suis rendu disponible à elle, que dans la mesure où je me suis lavé de toute rêverie, de toute distraction. La beauté, dit Balthazar, est ce qui donne à la vérité le caractère d'une grâce. Et donc cette évidence, la certitude, le sujet l'expérimente en soi, l'évidence, il la reçoit comme une grâce, comme une expérience, mais une expérience qui vient de plus loin que lui, qui est de l'ordre d'une révélation. C'est pourquoi le cogito de Descartes est un argument, il est une expérience et il est une intuition. Il est un argument, c'est cohérent de dire « je pense donc je suis ». Il est une expérience, parce que seul Descartes peut le dire. Et c'est une intuition, parce que pour Descartes, ça se livre dans une évidence émerveillée. Et si bien que quand on dit que la vérité est dévoilement, ce qui est un topos scolaire, ce qui est devenu un topos scolaire, quand on dit que la vérité est dévoilement, il faut distinguer le dévoilement en tant que il écarte des apparences, il écarte des voiles pour chercher derrière le voile ce qui est. Ça, c'est la démarche de la connaissance. Et enlevant des voiles pour chercher ce qu'il y a derrière les voiles, j'aurai derrière les voiles l'objet que j'aurai construit. Et il y aura toujours des voiles qui correspondront à la prochaine étape de la conquête du savoir. Alors que dire que la vérité est dévoilement, ça veut dire donc non pas qu'elle est cet acte de l'esprit par lequel j'arrache les apparences, mais cet acte de l'être qui se manifeste dans l'exactitude de son apparence, la correspondance de la manifestation et de l'être. En un sens, on peut dire que la vérité est cachée dans son évidence. D'ailleurs, on le sait, il n'y a rien de moins évident que l'évidence. La vérité est cachée dans son évidence, c'est pour ça qu'on dit évidence aveuglante. Parce que cette évidence, elle ne pourra pas être emportée, comme je le disais au début du propos, dans une solution que l'on puisse s'approprier. Elle ne peut pas être résumée, elle ne peut même pas, au fond, être transmise ou alors par des voies qui resteront elles-mêmes bien mystérieuses. Ce n'est pas la vérité qui est cachée, c'est nous. Si je n'étais pas caché à moi-même, si je n'étais pas noué de contradictions, si je n'étais pas percé de distractions, l'évidence à tout moment me serait donnée. Et c'est la raison pour laquelle, au fond, le dévoilement de l'évidence, c'est aussi par là même le dévoilement de moi-même. Et c'est pourquoi nous aimons la vérité quand nous l'éclairons, mais nous ne l'aimons pas quand elle nous éclaire. Parce que ce n'est pas l'objet qui est obscur, c'est moi. Alors, si je reprends l'exemple fumé-tu, là, il est parfait. Je n'ai pas besoin de le reprendre, vous pouvez le reconstruire tout seul. Ce n'est pas du tout obscur de savoir si fumé-tu. C'est moi qui suis peu libre, c'est moi qui suis obscur. Il faut alors pleinement éclairer l'affirmation que j'avais rencontrée selon laquelle la vérité est subjectivité. Il faut alors pleinement éclairer l'idée que l'on a rencontrée selon laquelle le sujet a comme acte le plus haut le fait de disparaître dans son discours, un discours sans confidence. Ce discours, on l'a dit, exige de lui qu'il le fasse passer par une décision. Et voilà pourquoi, donc, ce n'est pas le réel qui est voilé, mais c'est le sujet. Le réel ne serait en rien caché à un sujet sans rêverie. La question de la vérité est donc celle-ci. L'être est dévoilé, mais à qui ? À qui s'adresse cette évidence ? Qui la reçoit ? On peut même prendre l'exemple stupide et banal de fumé-tu. Qui reçoit cette affirmation ? Et donc, le sujet n'est pas la source de la vérité, mais il en est le destinataire. La vérité n'est pas une réponse, mais elle est ce à quoi il faut répondre. Et au moment où je fais l'expérience rare mais réelle de l'évidence, de la beauté, je suis précisément sommé d'y répondre. C'est ce que dit Rilke à propos de la beauté, mais on peut le dire à propos de la vérité. Rilke dit de la beauté, la beauté me dit « Du musst dein Leben ändern ». Tu dois changer ta vie. La beauté me dit « Tu dois changer ta vie ». La beauté nous trouve toujours trop lourd, impréparé. La vérité nous trouve toujours trop lourd, impréparé. Et la vérité me dit « Tu dois changer ta vie ». Et donc la vérité n'est pas une réponse, elle est ce à quoi il faut répondre. Et c'est pourquoi la question « Qu'est-ce que la vérité ?» est une question qui ne sera pas close par une réponse, puisque la vérité n'est pas réponse, mais ce à quoi il faut répondre. Et il aurait bien mieux fait de répondre, pense Pilate, c'est bougre, que de se contenter de nous faire expérimenter que la question est sans réponse. Voilà pourquoi je disais il faut de l'audace pour poser la question et de la modestie pour y répondre. Je me rappelle quand j'ai annoncé l'an dernier, à la fin de l'année, au Collège supérieur, on présente les conférences de l'année suivante. Venez cette année, comme ça vous connaîtrez le programme à l'avance et vous pourrez choisir à l'avance les conférences auxquelles vous participerez l'an prochain. C'est une réunion sympathique. Et alors, l'an dernier, j'avais présenté ce sujet. Qu'est-ce que la vérité ? Réponse à Ponce Pilate. Il y avait dans l'assistance Bruno Roche, comme il est là ce soir. Il n'est jamais en retard d'une moquerie. Et il dit, eh ben alors, quelle modestie ! Eh bien oui, il faut de la modestie pour répondre. Il faut de l'audace pour poser la question et de la modestie pour répondre, car la vérité nous trouve toujours impréparés, indisponibles. Il faut donc au contraire de l'humilité, et c'est précisément cette humilité qui manque au procurateur romain, puisque au fond... Pour aimer la vérité, il faudrait que je me convertisse. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Voilà le parcours que je voulais vous proposer. La vérité comme discours pleinement cohérent et qui est caractérisé donc par sa rationalité, sa cohérence. La vérité comme certitude, car le discours pleinement cohérent ne me donne que le possible. Et il faut bien que ce possible, le sujet se l'approprie d'un geste qui est son risque. Mais au bout du compte, le sujet n'est pas vraiment l'auteur de la vérité, il en est le destinataire. Et c'est ce que manifeste donc l'évidence dans sa lumière, lumière dans laquelle précisément l'être nous est caché au moment, dans son dévoilement même, nous échappe dans son dévoilement même. D'ailleurs, Aristote le dit, car il dit que le suprême connaissable, c'est Dieu. Connaissable par excellence. Le seul être vraiment connaissable, c'est Dieu. Le reste peut être connu de manière approximative. Seulement, la lumière de Dieu est telle que ce suprême connaissable n'est pas connu pour nous. Et il dit, nous sommes devant l'évidence comme une chouette devant la lumière. Et donc, comprendre la question de la vérité, c'est comprendre que l'être est comme voilé dans son dévoilement même. On peut, pour terminer, lire le texte lui-même, parce que quelques-uns sont peut-être venus sans connaître le texte, et donc maintenant nous sommes en mesure, j'espère, de le lire un peu mieux. Et je laisserai ainsi le mot de la fin à Saint Jean. Il convient de s'effacer. Ils mènent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Eux-mêmes, les Juifs, n'entrèrent pas dans le prétoire pour ne pas se souiller. Pilate sortit donc au dehors et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate leur dit, « Prenez-le, vous, et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » Donc la sentence est déjà décidée. Alors Pilate entra de nouveau dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit, « Tu es le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Dis-tu cela toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et tes grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Alors, il est plus bavard que dans les autres évangiles. « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs, mais mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Donc tu es roi. » Jésus répondit, « Tu le dis. Je suis roi. Je suis né et ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Et sur ce mot, il sortit de nouveau et alla vers les Juifs, et il leur dit, « Je ne trouve dans cet homme aucun motif de condamnation. Mais c'est pour vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors ils vociférèrent de nouveau, pas lui, mais Barabbas. Or Barabbas était un brigand. Donc vous connaissez la suite. À tout hasard, il fait flageller le Christ, l'avance sur le pavement en disant, « Voici l'homme ». Et livre le Christ à la mort, tout en disant une deuxième fois qu'il ne voyait en lui aucun motif de condamnation. Je me livre maintenant à vos questions.